Je lis quelques versets dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 8. Tu mets la première, Pedro. Notre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit reconnu pour saint, que ton règne vienne, que ta volonté advienne, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. Même si nous la connaissons peut-être avec des traductions un peu différentes, voici la fameuse prière du Notre Père. Cette prière que Jésus a recommandée à ses disciples assemblés autour de lui et à la foule également assemblée autour d'eux. Que ta volonté advienne, ou que ta volonté soit faite, on connaît peut-être plutôt comme ça. Je trouve qu'une telle parole amène à penser que la volonté de Dieu n'est pas toujours faite, alors. Ah bon, mais ce n'est pas la volonté de Dieu, lui qui est souverain et tout-puissant, qui s'accomplit toujours, comme on a pu le dire semaine dernière pour celles et ceux qui étaient là. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là, hein, tous les messages sont enregistrés et se trouvent sur le site internet de l'Église, avec le texte aussi de ce que je rédige. La volonté de Dieu, sujet complexe auquel j'aime réfléchir car il me semble tellement essentiel. Et en tant que chrétien, ne cherche-t-on pas en effet à toujours discerner quelle est la volonté de Dieu ? Discerner la volonté de Dieu, notamment pour comprendre ce qui se passe autour de nous en général, ou dans telle ou telle situation particulière, et aussi pour comprendre ce qui se passe pour nous. Ce qui se passe autour de nous et dans le monde. Et si nous prions le Notre Père, ou avec la même intention que cette prière, en tout cas, nous exprimons bel et bien que nous voulons que la volonté de Dieu soit faite. De façon générale, et bien sûr aussi de façon particulière. Avec notre propre inclusion dans cette volonté, inclusion aussi dans sa mise en œuvre, si Dieu nous fait grâce de nous utiliser pour cela. Nous devons en tout cas faire nôtre la volonté de Dieu, désirant, comme nous l'avons aussi déjà évoqué, ce que lui désire, pour que nous l'obtenions assurément. La volonté de Dieu, le plan souverain de Dieu s'accomplit toujours. C'est vrai, c'est une réalité. Il n'y a qu'à lire la Bible du début à la fin, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, pour être assuré de cela et s'en réjouir. Mais également, nous le savons aussi, et même sans lire la Bible, la Bible a le privilège de nous en expliquer le pourquoi profond et fondamental. On le voit aussi, la volonté de Dieu n'est pas toujours accomplie par beaucoup. Par nous, des fois, d'ailleurs, par les méchants et les rebelles, souvent, ou par Satan et ses anges, jamais. Ainsi, à la fois, la volonté de Dieu est faite, et également, la volonté de Dieu n'est pas faite. J'avoue que je ne peux que constater ma petitesse et les limites de mon entendement quand je considère ce genre de choses, a priori contradictoires et paradoxales, selon ma logique humaine en tout cas. Comme disait mon aïeul dans la foi, David, certes sur un autre sujet, une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre et la comprendre. Comment cela peut-il être? Comment ces réalités s'articulent-elles ensemble? Les philosophes, les théologiens, les grands penseurs essayent de comprendre cela, d'articuler, de formuler, de vulgariser. Mais ça reste compliqué, je suis bien incapable de faire mieux qu'eux. Ainsi, ce matin, je ne sais pas si je vais vous aider beaucoup en la matière, j'espère quand même un peu. Mais ce que je désire avant tout, même si notre compréhension de ce complexe sujet ne s'améliore pas aujourd'hui, c'est que nous puissions tous encore plus dire « Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. » Je comprends peut-être pas grand-chose, des fois. Des tas de situations me laissent perplexe ou me dépassent, mais je te fais confiance. Je m'abandonne à toi en cela aussi. Si tel est le cas, je n'aurais peut-être pas prêché dans le désert. Totalement. Et pour commencer, je reprends cette question déjà posée. Est-ce correct de dire « Oui, c'était ou c'est la volonté de Dieu » quand il y a épreuve, maladie, souffrance, décès? Et je reprends encore l'exemple évoqué semaine dernière aussi, l'exemple concret du décès d'Étienne en Actes chapitre 6 et 7. Le premier martyr chrétien de l'histoire, et je vais lire les derniers versets de cet événement. Et Pedro, tu peux mettre la suivante, la 3. Acte 7, à partir du verset 52. C'est Étienne qui parle. « Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ce qui annonçait d'avance la venue du juste, que vous, maintenant, vous avez livré et assassiné. Vous qui avez reçu la loi communiquée par les anges et vous n'avez pas observé ce qu'ils entendaient les exaspérer. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus, debout à la droite de Dieu. Il dit, « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris. En se bouchant les oreilles, tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Tandis qu'ils le lapidaient, Étienne priait en disant « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il se mit à genoux et cria « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Et après avoir dit cela, il s'endormit dans la mort. Combien même les paroles d'Étienne étaient dures, hein ? Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, le fait de tuer Étienne, sa lapidation, est clairement contraire à la volonté de Dieu stipulée noir sur blanc dans la parole, sans équivoque aucun. Dans le décalogue, c'est la sixième parole, « Tu ne commettras pas de meurtre ». Cet acte était un meurtre. Réprouvé par Dieu, cet acte était un péché. Et tout péché est assurément contraire à la volonté de Dieu. Une rébellion contre Dieu lui-même. Les responsables de cet acte en rendront compte devant Dieu. Les responsables de cet acte, s'ils n'ont pas par la suite placé leur foi en Jésus-Christ, le Seigneur, comme un certain jeune homme appelé Saul d'ailleurs, celui dont le texte parle, qui se convertira lui, s'ils n'ont pas obtenu par l'appropriation de la mort expiatoire du Sauveur le pardon de leurs péchés, ceux qui auront commis ce péché sont pour l'éternité déjà condamnés, malheureusement. Perdu, séparé de Dieu. En cela, la volonté parfaite de Dieu est par contre bel et bien accomplie, en toute justice. Je ne me réjouis pas de cette issue tragique, et Dieu non plus ne s'en réjouit pas non plus, car il ne veut pas la mort du pécheur, comme dit ce verset d'Ézéchiel. Là encore un aspect à saisir de sa volonté, mais c'est juste ainsi. Et c'est le premier point que je souligne. Dans ces pistes de réflexion sur la volonté de Dieu, je ne sais pas si ça rassure, je ne sais pas si ça apaise en toutes circonstances, mais ayons effectivement confiance que Dieu est toujours juste. Toujours juste. Et donc l'aboutissement de toute chose, et il nous faut peut-être beaucoup de patience avant de le voir, beaucoup de temps peut-être, l'aboutissement de toutes choses sera toujours juste. Combien même cela nous échappe peut-être encore largement à différentes étapes intermédiaires. Toujours juste. Seigneur, j'ai cette confiance en toi. Oh, mais bon, quand même, quoi. Moi, à la place de Dieu... Alors, les habitués savent que j'ai un peu trop souvent envie de me mettre à la place de Dieu et dire ce que moi, j'aurais trouvé plus approprié de faire. Donc moi, à la place de Dieu, j'aurais fait autrement. Pourquoi la souffrance de cette mort? Pourquoi cette injustice, ce mal? On pourrait objecter qu'en l'occurrence, la parole, et on les a lus ces versets, assez étonnamment, la parole ne se focalise pas sur la souffrance d'Étienne, mais insiste plutôt sur la réalité d'une béatitude chez Étienne. Mais bon, on connaît quand même pas mal d'histoires de martyrs plutôt douloureuses. Non, 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 si j'avais été Dieu, moi j'aurais fait autrement. Bien heureusement pour vous, bien heureusement pour nous, je ne suis pas Dieu. Car moi, j'aurais même pas envisagé la croix, pourtant œuvre parfaite de Dieu pour l'humanité. Et si plutôt que d'essayer de me considérer à une place, avec la suivante Pedro, qui n'est de toute façon pas la mienne, si plutôt que de vouloir penser à la place de Dieu, je me questionnais, et ça serait plus approprié, sur ce que j'aurais fait à la place des personnes de cet événement, à la place des auditeurs d'Étienne. Qu'aurais-je fait? Aurais-je été à l'écoute de Dieu parlant à travers lui? Assez humble pour me laisser reprendre? Aurais-je discerné Jésus, mon Sauveur, en ce Fils de l'homme qu'il décrivait à la droite de Dieu? Ou serais-je aussi devenu fou? Fou de rage à cause de mon orgueil religieux, emporté comme les autres, au point de tuer, au point de pécher. Et en tant que chrétien, à la place d'Étienne, aurais-je laissé le Saint-Esprit me remplir? L'aurais-je laissé parler à travers moi, au péril de ma vie? Ou aurais-je eu honte et peur? Aurais-je finalement pardonné à mes persécuteurs? Aurais-je, à mon niveau, fait la volonté de Dieu? Là aussi, plein de questionnements, et c'est vrai que tant qu'on n'est pas dans une telle situation, je ne suis pas sûr qu'on soit sûr de la réponse qu'on ferait, qu'on mettrait en œuvre. Quel choix personnel aurais-je fait? Et c'est le deuxième point que je souligne dans ces pistes de réflexion sur la volonté de Dieu. L'être humain est libre et responsable de ses choix. L'être humain responsable de ses choix. Étienne a choisi de suivre Jésus-Christ jusqu'au bout. Les autres, à ce moment-là, de s'y opposer. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, disais-je il y a quelques instants, mais il laisse les pécheurs que nous sommes dans la mort spirituelle si nous voulons refuser la vie qu'il offre. En l'occurrence, Dieu n'impose pas sa volonté, il la propose. Dans sa volonté un peu mystérieuse, il faut bien le reconnaître, car ce choix ne lui apporte à première vue que des complications. Et j'utilise ce mot « complication » un peu poli pour exprimer ma pensée. Dieu a choisi de créer le monde, Dieu a choisi de créer l'être humain, et de le créer libre, y compris libre de faire les mauvais choix et de se rebeller. Une liberté dont l'homme peut jouir, mais dont il devra, on vient de l'évoquer, rendre compte. Il sera responsable devant le Créateur et juste juge. Une telle faculté a aussi été donnée aux créatures célestes, libres de faire les mauvais choix et de se rebeller. Satan et ses anges devront aussi en rendre compte. Dieu n'était obligé de rien. Si tu mets la 7, Pedro. N'avait besoin de rien. Dieu ne manquait de rien. Mais Dieu a décidé ainsi. Quel mystère, hein ? Quel mystère ! Et ainsi nous sommes. Et ainsi est le monde. Moi, à la place de Dieu, j'aurais peut-être fait différemment. Ah non, j'ai dit que je ne me mettais plus à la place de Dieu. Je ne me mets plus à la place qui n'est pas la mienne. Mais chercher à comprendre la volonté de Dieu implique effectivement la reconnaissance de cet élément étonnant de la responsabilité individuelle des créatures qu'il a créées. Même si je dois reconnaître que parfois je me questionne de savoir si c'était sage de sa part d'en décider ainsi. Je me demande si c'était un bon choix de faire ainsi. Mais finalement, dans ma large incompréhension, je fais confiance à Dieu pour ce qu'il décide et ce qu'il fait. Chacun ses responsabilités, après tout. Pourtant, quelle prise de risque de la part de Dieu ! Quelle prise de risque ! Et à proprement parler, c'était plus qu'une prise de risque de sa part, puisqu'il savait que Satan allait se rebeller. Il savait que l'être humain allait pécher, se rebeller. Alors pourquoi ? Pourquoi nous créer ainsi libres ? Ça n'a pas de sens ! Ça n'a pas de sens ! En y réfléchissant, je me dis que si, ça a du sens en fait, pleinement du sens. Ce geste de sa part est d'une telle beauté, tellement représentatif et digne de qui il est. Pourrions-nous être des adorateurs en esprit, en vérité, si nous y étions contraints et forcés ? Dieu serait-il vraiment reconnu comme étant amour ? Miséricorde et sainteté, si nous étions de simples marionnettes entre ses mains ? Quelle reconnaissance et quelle confiance attendre de créatures qui seraient à ses ordres, sans capacité de choix ? Moi, je suis confondu par le fait que Dieu m'ait créé alors qu'il n'en avait pas besoin. Qu'il m'ait accordé sa grâce alors que je ne la méritais pas, et encore plus en comprenant la liberté qu'il m'a donnée et le risque qu'il a ainsi pris. Je lui fais maintenant davantage confiance encore en comprenant qui il est vraiment et ce qu'il m'a offert. Pas vous ? Pour comprendre un peu mieux peut-être, même si la comparaison est bien sûr limitée du fait de nos propres limites, mais réfléchissons à comment nous éduquons nos enfants, comment nous faisons avec nos enfants. Par la coercition et l'obligation en anesthésiant leur cerveau et leur liberté. Nous en faisons des robots, comme ça nous sommes sûrs de pouvoir les télécommander et de leur faire faire tout ce que nous voulons systématiquement. C'est comme ça qu'on fait ? Ou tout en leur donnant un cadre, des valeurs, des principes, et parce que nous les aimons, les éduquons-nous pour qu'ils comprennent et choisissent le bon chemin de leur propre liberté et responsabilité ? Je crois que Dieu agit de même envers nous. Dieu agit parfaitement, lui, envers nous, en faisant comme ça, tel un Père céleste. Il veut être pour chacun. Notre Père, qui est dans les cieux, que ton nom soit reconnu pour saint. Pas juste parce que tu es saint de fait, ça serait déjà légitime, mais effectivement parce que nous le reconnaissons en découvrant de manière personnelle qui tu es. Nous découvrons ce que tu as fait pour nous. Et nous en sommes émerveillés et reconnaissants. Nous reconnaissons ta main dans nos vies au quotidien et nous te louons pour ce que tu fais. Nous voyons combien et comment tu nous aimes. Alors oui, nous le proclamons. Tu es saint. Tu es Dieu. Nous voulons que tu sois notre Dieu. Et Seigneur, que de nombreuses autres personnes viennent à comprendre qui tu es, à comprendre ce que tu as fait et fait, et à reconnaître alors que tu es saint, que tu es Dieu. Oui, c'est notre prière, c'est notre aspiration profonde. que ton règne vienne, que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Je ne sais pas comment vous comprenez cette expression. En français, le mot « comme » a deux significations. La première est celle d'une comparaison, pour dire « de la même manière que » ou « au même degré que ». Mais il y a aussi une seconde signification, celle d'une addition, pour dire « ainsi que » ou bien « et ». C'est ce que le dictionnaire me dit, en tout cas. Et j'utilise ça comme excuse pour avoir mal compris pendant des décennies, jusqu'à il y a 3 jours, quand j'ai un peu plus médité ce texte pour le préparer. Moi, je pensais que cette expression « sur la terre comme au ciel » voulait dire que ta volonté soit faite sur la terre et aussi que ta volonté soit faite dans le ciel, dans le sens de « et » aux deux endroits, impliquant dans ma compréhension incorrecte que la volonté de Dieu n'était pas faite, en tout cas c'est comme ça que je le comprenais, parfaitement pas faite sur terre, ça on vient de l'évoquer, il suffit de regarder autour de nous, on sait que tout le monde ne la met pas en œuvre, mais je comprenais aussi que dans le ciel, à cause des actions relatives à Satan et aux anges déchus, en tant qu'être céleste, ma compréhension était aussi que la volonté de Dieu n'était pas faite dans le ciel. Mais en fait, si on regarde de plus près en grec, et le grec, c'est la langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit originalement. Hein. En grec, le mot « comme » n'a qu'un seul sens, celui de la comparaison. C'est pour cela que, de manière plus explicite, certaines traductions, Darby, français courant, la Taube, les versions anglaises, disent « sur la terre à l'image du ciel, sur la terre comme elle est faite dans le ciel ». Voulant dire que la volonté de Dieu est effectivement faite au ciel. Et la prière est qu'elle soit faite pareillement sur terre, qu'elle soit faite de même ici-bas qu'elle est déjà faite au ciel. Je suis content de faire ce message, que j'ai au moins appris quelque chose cette semaine. Merci Seigneur de nous aider à chaque fois à mieux comprendre ta parole, à mieux saisir ce qu'elle veut dire. Je me rends compte combien j'en ai besoin et je me réjouis des merveilles qu'elle contient et de ce qu'elle enseigne. La volonté de Dieu est donc faite au ciel, parfaitement faite au ciel. Non, mais pourtant, on l'a dit, il n'y a pas de doute là-dessus. Satan et ses anges déchus sont jusqu'à la fin des temps rebelles et s'opposent à la volonté de Dieu. Et en tant qu'êtres spirituels, ne sont-ils pas de façon imagée au ciel ? Comment peut-il être dit que la volonté de Dieu est faite au ciel ? Comment comprendre cela ? Pas le temps de tout développer ici, malheureusement, mais... Et puis les points de vue chrétiens varient dans cette compréhension théologique générale des choses. Moi, je pense que ça veut dire que, dans ma compréhension aussi de l'Apocalypse, je crois que Satan, effectivement, a déjà été précipité. Je me trompe peut-être encore, hein. En tout cas, il est reconnu que depuis la victoire de Christ sur la croix, depuis l'ascension de Jésus à la droite de Dieu, comme on l'a vu avec Étienne, enfin comme Étienne l'a vu plutôt, lors de son martyre, le règne de Dieu par Christ est effectivement et visiblement établi dans le ciel. Satan a été vaincu. L'apôtre Paul écrira dans l'Épître aux Colossiens, « Jésus a ainsi dépouillé les dominations et les autorités » et les a donnés, les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. On parle bien déjà là de la défaite déjà acquise de Satan et de ses sbires, combien même sa destruction effective est encore à venir. Il y a du déjà et du pas encore. Et c'est pour ça que, dans notre Père, il est dit « Que ta volonté, que la volonté de Dieu soit donc faite sur la terre comme c'est déjà le cas au ciel ». C'est l'expression du Notre Père, et c'est notre prière, je l'espère, qu'effectivement, ce qui est réalité déjà, dans les cieux, avec Jésus assis à la droite de Dieu, devienne aussi réalité sur terre, sur la terre comme au ciel. Là, pareil, encore un petit mot là-dessus. Le grec n'a pas de ponctuation, Et donc on ne sait pas grammaticalement si l'expression « sur la terre comme au ciel » se rapporte seulement à la dernière partie des demandes, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ou bien si ça se rapporte à l'ensemble de cette prière. Les traductions divergent donc par rapport à ça. Moi, ça me semble plus logique, plus exact, comme le met la Bible du Semeur ou la Nouvelle Bible Second, de dire que cette expression s'applique à toutes les requêtes de cette prière. Et ainsi, si on insistait, on répéterait, on dirait « Que ton nom soit reconnu pour saint sur la terre comme il l'est déjà au ciel. Que ton règne vienne sur la terre comme tu règnes déjà au ciel. Que ta volonté advienne sur la terre comme elle l'est déjà au ciel. » Au ciel, Dieu est effectivement reconnu comme Dieu, saint, Dieu règne. Et sa volonté est advenue, comme on vient de le préciser depuis la victoire de Christ sur la croix. Que cela soit pour nous source de confiance et de paix. La prière, ma prière, notre prière, est que tout cela advienne également partout, ici-bas. Ce qui sera le cas dès le retour de Christ, après lequel nous languissons. Le Notre Père est ainsi une prière voulant hâter le retour et le règne de Christ. Pour l'instant, ce n'est le cas que dans les chrétiens. De façon absolue en Christ, nous reconnaissons le saint nom du Seigneur. Il règne sur nos vies. C'est le sens mot du mot « Seigneur » que nous lui reconnaissons. Même si on se dit certainement « Ah ouais, Dieu ne règne pas beaucoup sur ma vie » ou « Le Seigneur, c'est plutôt intermittent son règne. » Non, de fait, en ayant placé nos vies entre ses mains, Jésus-Christ est Seigneur de nos vies. Il règne sur nos vies. Et, je l'espère, nous faisons sa volonté, même si de façon pratique, nous sommes encore sur un chemin de sanctification. Là aussi, du déjà et du pas encore, et on peut prier pour nos progrès sur ce chemin avec le Seigneur. Pour finir, nous l'avons dit, il y a à la fois volonté souveraine et parfaite de Dieu et à la fois liberté et responsabilité entière des chrétiens que nous sommes, ainsi que Satan et ses anges. Cette articulation très complexe, il nous faut, certainement pour mieux la comprendre, mettre au placard notre logique humaine et a fortiori notre logique occidentale cartésienne, qui voudrait que ça soit soit l'un, soit l'autre. Peut-on ainsi dire que Dieu doit en quelque sorte s'accommoder, faire avec la volonté humaine, souvent contraire, souvent pécheresse, en conséquence du fait qu'il a lui-même décidé de nous laisser cette liberté et responsabilité aux êtres humains? Doit-il s'accommoder et faire avec la volonté toujours contraire de Satan? Je ne sais pas si cette formulation, plutôt cette formulation n'est probablement pas pleinement correcte. Mais ce qui est sûr, c'est que des choses contraires à la volonté de Dieu, les péchés, peuvent être faits, sans pour autant que cela échappe à sa volonté ni n'entache aucunement sa sainteté et sa perfection. Ainsi, Dieu a réprouvé le meurtre d'Étienne, et on a déjà parlé des responsabilités des uns et des autres, mais tout à la fois, le plan de Dieu incluait cet événement pour la propagation de l'Évangile et pour in fine sa gloire. Le règne de Dieu est de fait advenu en de nombreuses personnes touchées par l'Évangile suite à ce témoignage jusqu'au sacrifice d'Étienne. Sans que tout soit selon la volonté de Dieu s'est accomplie. Et on a évoqué l'exemple de Saul. Cet apôtre Paul, présent, participant d'une certaine façon à cette lapidation. Dieu a utilisé aussi, je pense, le meurtre d'Étienne comme une étape dans la conversion de Saul. Oui, d'accord, mais bon, la mort de Jésus lui-même, la mort d'Étienne, celle de Jacques, de Pierre, de Paul plus tard, et toutes ces persécutions pour le nom du Seigneur, on peut comprendre que même si elles sont la conséquence du péché des hommes, elles peuvent effectivement servir à la gloire de Dieu. On comprend l'opposition du malin, la lutte des ténèbres contre la lumière. Et même si déjà ce n'est pas évident, On peut, dans une certaine mesure, comprendre qu'elles rentrent dans le plan assez mystérieux de Dieu et permettent, en fin de compte, à son règne de grandir. Dans ces cas-là, on peut quelque peu arriver à lui faire confiance, même sans bien comprendre. Mais il y a plein d'autres souffrances, plein d'autres maladies, épreuves, difficultés, obstacles, qui ne sont pas du tout dans le cadre de la persécution, qui ne sont pas du tout dans le cadre de la proclamation de l'Évangile, qui n'ont rien à voir avec le témoignage chrétien. Pour cela, peut-on dire que c'est ou c'était la volonté de Dieu ? Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais, dit le dernier verset de la prière. Si comme moi, vous commencez à avoir des cheveux gris, vous vous souvenez peut-être qu'on apprenait notre Père comme disant « Ne nous soumets pas à la tentation ». C'est comme ça que moi je l'ai appris, en tout cas dans l'Église catholique il y a quelques décennies. Épreuve ou tentation ? En français, ces deux mots ont un sens bien différent par l'attention qu'ils véhiculent, notamment. Tenter implique une motivation mauvaise, celle de faire chuter, de faire pécher, de pousser au mal. Satan fait cela envers nous. Dieu non. Dieu ne tente pas et Dieu ne soumet donc pas à la tentation, car il ne fait ni ne veut pas le mal. L'intention de Dieu est toujours bonne. Le problème, c'est qu'en grec, encore du grec, hein, je vous embête avec ça ce matin, en grec, il n'y a qu'un seul mot qui veut dire les deux choses. Et donc, ça complique le travail des traducteurs de savoir comment traduire ce même mot unique. On peut donc comprendre que ce verset, comme voulant dire en substance, « Dieu, dans ta grâce, ne permet pas à Satan de nous tenter », comme dit la Bible du Semeur, garde-nous de céder à la tentation, sous-entendu venant de Satan. Ou alors ça peut aussi vouloir dire, épargne-nous les épreuves, sous-entendu que tu pourrais permettre, toi Dieu, comme dans le sens de la Nouvelle Bible Second que j'ai lue. La tentation n'est pas la volonté de Dieu, mais celle de Satan qui nous attaque et veut nous faire tomber, et à qui Dieu laisse encore un peu de liberté. Par contre, l'épreuve peut être dans la volonté de Dieu, avec non pas l'objectif de nous faire mal, ou de faire du mal, même si l'épreuve peut faire mal, plus ou moins, être douloureuse, pénible, mais son intention est bonne. Tu mets la 10, Pedro. Car l'épreuve de votre foi produit l'endurance, écrira l'apôtre Jacques, qui encourage même à considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Quand Pedro encourageait à la joie dans la présidence tout à l'heure, je ne suis pas sûr qu'on pensait aux épreuves. Et pourtant, il y a un des chants, j'ai noté, qu'on a chanté là, qui dit « Quand l'épreuve vient me former », donc dans le sens de « l'épreuve sert à ma formation », « béni soit le nom de l'Éternel ». Je ne sais pas si vous l'avez chanté, mais on a été encouragé à le faire tout à l'heure, en tout cas. Il faut que je grandisse encore un peu dans ma foi pour comprendre cela. Pierre, lui, écrira « Maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Seigneur, je ne sais pas nécessairement ce dont j'ai encore besoin comme épreuve, ou les épreuves par lesquelles tu as besoin encore de me faire passer, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Ceci étant, ma prière est si possible que tu ne me fasses pas entrer dans l'épreuve. Ma prière est si possible que tu ne me fasses pas entrer dans l'épreuve. Et on a le droit de prier ça. On a le droit de demander à Dieu d'être épargné des épreuves. C'est notre Père qui nous l'enseigne. On peut prier, ne nous fais pas entrer dans l'épreuve. Mais on doit en même temps se souvenir de cette prière de Jésus à Gethsémané que j'ai évoquée semaine dernière et que je reprends là. « Abba Père, pour toi tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. » Ça veut bien dire de la part de Jésus. « Épargne-moi l'épreuve si possible. Ne me fais pas entrer dans l'épreuve. » C'était la prière de Jésus. On a le droit de faire le même genre de prière, en n'oubliant pas la fin de ce qu'il a dit lui. « Cependant qu'il arrive non pas ce que je veux, moi, mais ce que toi tu veux. » Si possible, ne nous fais pas entrer dans l'épreuve. Cependant qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. J'ai encore des progrès à faire en la matière. Je vous laisserai décider pour vous-même. Ce qui est sûr, c'est que Dieu, tu me délivres du malin. Tu me délivres du mauvais. Tu m'as délivré de Satan, qui ne peut fondamentalement plus me nuire. Combien même il essaye, et il essaye souvent. Combien même il essaye de me le faire croire. Je sais que je suis gardé dans ta main, Seigneur. Je sais que je suis gardé dans ta main, gardé pour toujours. Je sais, et là je reprends des paroles de l'apôtre Paul, je sais, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, et ça, ça a concerné à Étienne, hein. Ni la mort, ça veut bien dire, et on le sait, chacun d'entre nous, nous subirons un jour ou l'autre la mort physique, sauf si Dieu revient avant, si le Seigneur revient avant. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, et les dominations, on parle de Satan et les anges déçus, les démons, ni le présent, ni l'avenir, et pourtant il est souvent incertain l'avenir, ni les puissances, ça c'est encore en lien avec Satan, ni ce qui est en haut, ou les puissances aussi terrestres, hein, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien, ne pourra m'arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Face à l'épreuve, des fois en subissant la tentation, peut-être en étant perplexe quand les choses ou autres arrivent, quant à la volonté de Dieu, j'espère que c'est votre certitude ici aussi. C'est ma prière pour chacun d'entre nous, en tout cas. Amen.